la tarification, il me semble qu'il y a deux versants. Il y a le versant du financement, effectivement, c'est moyen de financer les infrastructures, et puis il y a tout l'aspect du signal prix et de la structure d'incitation que ça véhicule. Et est-ce que vous pourriez, parce que peut-être que chacun ici est clair là-dessus, mais on n'a pas en fait, nous rappeler quelques éléments de base, à la fois sur ce qu'on peut dire du coût réel des déplacements par mode et des débats qui accompagnent le calcul de ces coûts, et de ce qu'on peut en conclure en termes de tarification, de sur- ou de sous-tarification en fonction des modes, parce que moi c'est un peu basique, mais finalement moi je trouve que c'est utile comme encadrage.
Bon, c'est difficile de parler du coût par mode. Parce que si on prend par exemple le ferroviaire, le coût de déplacement, il est très hétérogène. Hein, quand tu es sur du mass transit, tu as un coût de déplacement qui, rapporté aux passagers kilomètres, va être très bas. Si tu es sur une ligne comme le TET, comme le Cévenol ou l'Aubrac, là tu vas avoir un coût de déplacement extrêmement élevé. On avait fait une étude sur le contournement sud du Massif Central dans la commission sur les TET, et on s'apercevait que on mettait, je crois, 97 euros de subvention pour chaque billet vendu, hein, sur cette ligne Lyon-Bordeaux, alors que ça devait nous amener à 100 et quelques euros, alors que pour 9 heures de trajet. Alors que, comment dirais-je, avec EasyJet, on était à 80 ou 90 euros pour 3 quarts d'heure de trajet. Donc c'était absolument pas pertinent. Hein. Mais, alors là, c'est des choses comme ça. Mais sur les routes, c'est la même chose. Quand tu es sur un gros tuyau qui est une autoroute, tu vois que le coût unitaire est bas. Alors que quand on a une petite route de bonne qualité, ou même une autoroute comme la 75, qui est très parcourue l'été, mais en période normale, il n'y a pas une fréquentation très très importante. Hein. Donc c'est difficile de faire ce coup. Il y a un problème, j'allais dire, de péréquation entre les infrastructures les plus fréquentées et les petites. C'est un problème d'aménagement du territoire. Ça a toujours été une approche française des choses. Mais si on écoutait uniquement les économistes, on aurait des choses plus étonnantes. Quand je parlais tout à l'heure de les assises du ferroviaire, en 2010, dans la commission sur les modèles économiques, il y avait un économiste peu âgé, mais assez renommé, qui s'appelle Rémi Coulomb. Et Rémi était hors de lui par rapport à l'argent qu'on mettait sur le ferroviaire, ou par l'argent qu'on mettait dans les régions un peu périphériques. Il considérait qu'il fallait faire que des autoroutes, parce que le retour sur investissement était bien meilleur, hein, et qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'aller amener beaucoup d'infrastructures là où il n'y avait pas beaucoup d'activité. Bon, quand on est sur des raisonnements comme ça, on va très vite à la révolution. Mais, bon. Et quand on regarde, ça se pose tout le problème de l'évaluation socio-économique des infrastructures. Quand on a fait Mobilité 21, on avait demandé au CGEDD, de nous faire l'évaluation, de réactualiser toute l'évaluation des 175 projets du SNIP, du Schéma National des Infrastructures. Et le retour, ils étaient très contents de leur travail, mais nous, le retour nous a consternés. Parce que vous avez tous les projets autoroutiers qui étaient en haut de tableau, qui avaient le meilleur score, hein. Vous aviez ensuite les routes classiques, les contournements de ville ou des choses comme ça. Après, arrivait les LGV, puis le ferroviaire classique, puis vous terminiez avec la voie d'eau, parce que le temps d'amortissement d'une voie d'eau, c'est séculaire. Hein. Donc, on a dit, chers amis, vous avez superbement travaillé, on vous remercie, mais on ne peut pas garder votre présenter votre. travailler comme ça. Il est inexploitable politiquement. Politiquement incorrect.
J'imagine que la manière dont on valorise les externalités change beaucoup la nature des conclusions qu'on peut tirer.
Oui, mais quand on a fait cette évaluation, les valeurs tutélaires l'évaluation socio-économique était en pleine révision. Hein, c'était le travail de Jean Berdiniou et d'Émile Quidet qui ont réactualisé ces valeurs socio-économiques. Et cependant, elles privilégiaient encore trop, notamment le temps. Hein, le temps gagné, en fait, la valorisation du temps gagné qui était le paramètre essentiel.
C'est vraiment le gain de temps.
C'est le gain de temps.
On voit bien pourquoi les FGP sont finalement pas si mal placées que ça, c'est parce qu'elles font gagner du temps. Donc en fait, c'est vraiment la valorisation du temps. Et ça, quand je parlais hier des indicateurs d'accessibilité, qui n'ont jamais pu être finalement utilisés, moi je me souviens avoir interviewé Jean-Gérard Koenig à ce sujet récemment, et il disait notre problématique c'était à la fois qu'on n'arrivait pas à internaliser effectivement la totalité des coûts externes des transports, ça c'est une chose, et il y a eu plusieurs travaux de fait à ce sujet, et en plus qu'on n'arrivait pas à rivaliser effectivement contre cette valorisation du gain de temps, c'est quelque chose qui... Il y a des choses pour rebondir sur ce que disait Philippe à l'instant là, sur l'espèce de, en fait, de vision orthogonale entre aménagement du territoire et rentabilité économique des infrastructures. Donc un économiste comme Bonafous, très reconnu dans le champ des transports, avait montré en 2003 dans un article qu'il démontre pourquoi c'est totalement orthogonal. Mais tout ça vient en fait des règles et des hypothèses que l'on prend pour le calcul économique. Donc il n'y a pas moyen, si on reste dans la logique de ce calcul économique, d'élargir en fait la vision d'évaluation des infrastructures de transport et de la planification et de ce que l'on veut faire en dehors, disons, de règles qui ne permettront jamais d'avoir une autre vision, que ce soit l'aménagement du territoire ou les externalités environnementales.
Oui,
juste par rapport à ce que...
C'est un vieux principe
En fait, moi j'ai eu la chance effectivement de passer mon dialogue d'économie des transports avec Rémi Prudhomme. Et ce qu'il m'a enseigné également, c'est que en fait, dans le calcul économique, vous avez ce qu'on appelle le calcul du coût d'opportunité et ce qu'on appelle aussi les externalités négatives. Et en ce moment, on travaille ensemble à la DGTM sur le dossier. Peut-être pour éclairer le phénomène de comment on calcule le coût. Le coût du mort, le coût de la mort prématurée, finalement la France. Avec la Pologne et la Bulgarie vient d'être condamnée par la Cour de justice européenne, donc on fait partie du trio de tête, à 11 millions d'euros de pénalité pour non-respect du seuil de dépassement des particules polluantes.
Ah oui, oui, là oui.
Ce qui fait que 11 millions, ça peut éventuellement se mettre dans la balance du coût d'opportunité pour voir que finalement. Certes, le temps, c'est important, mais le temps de vie aussi, en fait, voilà. Donc ça, c'est un point d'éclairage sur le montant du coût d'opportunité et du calcul le fameux TRI. Et la deuxième chose que je voulais juste dire, c'est par rapport au transport gratuit. En fait, le transport, c'est pas gratuit, ça, c'est bien, parce que d'ailleurs, en plus, vous êtes les premiers à savoir, puisque ça coûte très cher. En fait, c'est gratuit pour l'usager. Qui fait que soit on fait payer le contribuable et l'entreprise, soit on fait payer ce que vous disiez, monsieur Durand, sur l'usager. Et finalement, c'est somme toute effectivement un vrai choix politique. Mais dans les contribuables, il y a ceux qui n'utiliseront jamais le métro, jamais le tramway, jamais. Voilà. Mais en même temps, c'est, disons, peut-être une bonne façon de répercuter. Le fameux coût d'opportunité de dire moi j'ai le luxe d'avoir une voiture garée en bas de chez moi, j'ai le luxe de pouvoir circuler en voiture quand j'en ai envie, donc ok je vais payer un peu plus mais d'impôts pour contribuer à ce que d'autres finalement qui font choix de se transporter en vie. Et un dernier point d'éclairage, si je puis me permettre, en termes d'économie des transports, on voit bien que le financement, par exemple, de la SGP, a rajouté une taxe additionnelle sur la taxe d'habitation. Alors, à l'époque, au moment où ça a été voté, mais j'ai plus les montants en tête, c'est 15 euros par foyer parisien. C'est une bonne, un bon montant là, pour financer ce réseau de transport. Alors, ça financera un investissement, on ne sait pas encore comment on va financer l'exploitation.
On fera du déficit.
Le déficit, ce sera la région de France. Mais voilà, tous ces sujets sont passionnants en fait. Et moi, j'allais justement, pour finir, poser une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, c'est l'occasion par rapport à ce que vous présentez, messieurs, de se poser la question de comment on remet à plat tout ce système de financement. Parce qu'on a, par exemple, dans nos agglomérations, des touristes qui payent le même prix que l'usager qui habite là et qui finalement profite aussi des services avec un tarif préférentiel. Par exemple, pour donner un exemple, sur Vélib, on a triplé le tarif du touriste en estimant que le reste du montant pour les usagers classiques était payé aussi indirectement par le fait qu'ils étaient contribuables parisiens. Voilà, j'en finis là. Excusez-moi d'avoir été un peu longue.
Le coût des morts accidentelles est pris dans l'évaluation socio-économique. Hein. Un mort, ça pèse tant de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Vous pouvez entrer, monsieur, vous êtes le bienvenu. Tenez, on n'a pas tout à fait saisi la conséquence, mais venez vous asseoir ici. Vous êtes annoncé.
Claire, vas-y. Un complément à la question de Véronique sur le financement et la remise à plat du financement du transport. On pense effectivement fournisseurs, clients, usagers. Dans les modèles des GAFA, il n'y a pas que ceux-là en fait, qui financent le modèle, en particulier par la publicité. Oui. Mais à quand le marketing du transport? Et à quand, justement, je prends l'exemple de la RATP, mais avec plein de publicités qui circulent partout, à SNCF, je ne sais pas encore, enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, à quand, justement, d'autres modalités de financement?
Alors, dans le métro, il y a déjà des vendeurs de légumes et de fruits, mais ils rapportent moins que les boutiques d'ADP. Bon, mais je pense qu'il y a un vrai sujet qui avait posé Sandra, c'est celui du signal prix. Et qui est connexe aussi du problème de l'internalisation des coûts externes des transports. Alors, je vous ferai passer par Internet une étude qu'on avait montée avec TDIE et Yves Crozet sur les externalités, qui est assez intéressante. Il faut la lire deux fois, quand on est, comme moi, pas un spécialiste de ces sujets, mais c'est intéressant. Mais ceci dit, c'est difficile de faire payer, de donner un signal de prix. Quand on fait la taxe carbone d'une certaine façon, c'est un signal prix. Et on voit le retour. Et on était l'autre jour avec Caroline dans un autre Sénat où on nous parlait de cette assemblée qui a été mise en place par le gouvernement avec des citoyens pour parler d'environnement. Et la personne qui relatait une des réunions de cette assemblée disait que ils avaient entendu quelqu'un qui était un expert, une experte plus exactement, qui était venu leur parler de la remise sur le métier de la taxe carbone et que les gens lui ont dit « Mais madame, vous n'avez rien compris. On n'en veut pas et c'est pas la peine de revenir avec ça. » Ou autrement ça. Donc, on est là devant des problèmes d'acceptabilité ou d'inacceptabilité qui sont extrêmement puissants, ancrés et forts. Et on aura du mal à avancer sur ce sujet. Quant à l'équilibre entre contribuables et usagers, moi je pense que les contribuables doivent payer une partie des transports. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve un mixte qui soit équilibré entre les uns et les autres. Il y a quelques années, j'avais organisé à l'Assemblée un colloque sur le financement des transports. C'était d'ailleurs la première sortie de Violetta Bulls qui venait d'être nommée comme commissaire au transport, et on a été les conclusions, c'était que le bon mix serait d'avoir un 50-50 quoi, entre le contribuable et l'usager. On sait que c'est difficile. Hein. Mais cependant, regardez à Lyon où l'usager paye une part consistant du coût, il n'y a pas trop de problème parce que quelle est l'attente réelle des usagers? C'est d'abord qu'il y ait une offre de transport qui soit suffisante. C'est ensuite une offre de transport qui soit qualitative, qui soit avec une fréquence, avec une fiabilité. Hein. Allez voir les gens de l'ex-PACA. Hein. Ils ne payent pas leur TER plus cher que les autres. Mais ils sont infiniment plus en colère que tous les autres. Parce que la médiocrité du service est devenue inacceptable. Inacceptable. Donc les problèmes, si on veut faire vraiment, si on veut avoir vraiment des services de transport efficaces, ben c'est d'abord de, comment dirais-je, qu'ils soient de très grande qualité. Et le sujet, si on voulait augmenter, si vous créez des transports gratuits, vous allez effectivement attirer plus de monde. Mais est-ce qu'on a la capacité de les accueillir convenablement dans les transports existants? En Ile-de-France, regardez la saturation des transports. Alors bien sûr, on aura bientôt le Grand Paris Express qui va apporter d'autres sources de capacité. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est comment on fait plus et comment on fait mieux. Après qu'il y ait une tarification sociale, moi, ça ne joue pas du tout. Au contraire, je suis plutôt favorable. Mais la gratuité me semble vraiment la fausse bonne idée.
Est-ce que je peux dire un mot avant de repartir à la campagne? Je vous apporte un témoignage de la campagne. Donc, c'est la Côte d'Agglo de Flers, c'est dans l'Or, hein, c'est pas dans la Manche, mais qui a mis en place une offre de transport qui est orientée pour sortir les gens de leur voiture individuelle, parce que tout le monde a ce réflexe-là dans un territoire un peu diffus où on saute dans la voiture pour aller acheter le pain, porter des enfants à l'école, etc. Et ils ont développé une offre qui est, alors avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils pouvaient faire en mobilisant tout ce qu'ils avaient, bon, il y a un réseau de bus qui tourne sur la Glo, ils ont réussi à récupérer des places aussi dans c'est un accord pour récupérer des places dans le transport scolaire, donc ça densifie encore l'offre sur certains horaires. Ils ont aussi, avec l'opérateur Carrosse, que vous connaissez peut-être, qui est un opérateur de covoiturage à longue distance, et qui a une technologie, une application, etc., donc, ils ont mis en place un service qui offre une tarification qui est à la fois incitative pour les habitants, c'est aligné sur le prix du bus, un euro 10 jusqu'à 10 km, et puis au-delà, jusqu'à 40 km, c'est 10 centimes du kilomètre supplémentaire, donc 40 km, c'est à peu près le périmètre de la Glo, et puis au-delà, ça devient un petit peu plus cher, mais voilà, et qui est incitatif aussi pour le prestataire, qui prend au moins 1,50 €, donc il se déplace pas pour rien, il va chercher la personne, il va dépose. Et ils offrent aussi en contrepartie, parce que ça rejoint le sujet de la fiabilité, c'est-à-dire qu'on part le matin avec quelqu'un qui vous a jamais promis qu'il passe le prendre très bien, et alors le soir, s'il ne prend pas, comment on fait? La Glo mise en place, elle garantit en fait un retour en taxi. C'est coûteux, mais ça arrive très rarement, parce que tout le monde est un peu de bonne foi, il y a des gens qui jouent bien le jeu, et donc ce que je voulais témoigner, c'est d'une offre de transport qui est vraiment incitative. Alors en plus, ils ont développé l'allocation du vélo électrique, etc., après la tarif, et les gens ensuite louent le vélo quelques mois, puis en achètent un. Ils arrivent à faire basculer les gens vers d'autres usages, à reconnecter aussi des personnes âgées qui sont en perte de mobilité un peu éloignées, à les rebrancher sur les facilités en ville, faire les courses, aller chez les médecins, etc. Donc il y a aussi dans ces territoires, et alors c'est ce qu'on attend demain encore plus avec les autorités libérales, qui vont se développer, mais il y a déjà quelques collectivités en territoire ruraux qui ont pris la main, et il y a des expériences